Vous écoutez RTL.
Il est 14h03 sur RTL, l'heure de retrouver Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Chic, c'est nous. Bonjour Christelle.
Bonjour Christelle.
Bon week-end. C'est la curiosité qui démarre, c'est toujours un bonheur de vous retrouver pour une heure d'histoire vraie, joyeuse, étonnante avec Thomas. Bonjour Thomas.
Bonjour Sidonie, bonjour à toutes et à tous. 14h, tiens, 4 pile poil sur RTL. Vous êtes peut-être en train de siroter un café, on va vous aider à choisir, à dénicher les bons cafés au supermarché, c'est possible, et découvrir cette plante aux effets magiques, ce sera vers 14h30.
Bon, et tout de suite, ne vous étranglez pas, des bébés OGM dans la curiosité.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec sur RTL.
Pas de conférence de presse ni d'article dans une revue scientifique. C'est via YouTube que le chercheur He Jiang Kui a annoncé la nouvelle, celle de la naissance de jumelles génétiquement modifiées.
Juste après avoir injecté le sperme du mari dans l'ovule, nous avons aussi injecté un peu de protéines et des instructions pour une chirurgie génétique afin de bloquer le point d'entrée par lequel le VIH infecte les gens.
La curiosité est un vilain défaut.
Bonjour Jean-François Bouvet.
Bonjour, bonjour.
Soyez le bienvenu. Bienvenue. Vous êtes l'un de nos sociétaires. On va dire que vous êtes notre biologiste sociétaire en quelque sorte, à la curiosité.
Oui, je suis très flatté d'ailleurs.
Vous êtes docteur en biologie éditorialiste au point. On l'entendait dans la mise en onde en novembre, on découvrait qu'un chercheur chinois avait créé les premiers bébés OGM. Ce sont des jumelles. Dans quelle perspective il a fait ça ?
Alors, il y a ce qu'il dit et puis il y a la réalité. Bon, il a voulu modifier génétiquement des bébés pour les rendre résistants au virus du sida, pour qu'il puisse plus être infecté par le virus du sida. Ça, c'est l'aspect scientifique, le prétexte. La réalité, c'est qu'il a voulu faire une espèce de super coup de pub sur sa capacité à faire cette opération, qui n'est pas si compliquée que ça, on le verra. En fait, ça aurait pu être fait n'importe où. Simplement, il a suscité donc un intérêt mondial avec cette expérimentation qui est pour le moins contestable.
Mais alors, qu'est-ce qui est contestable ? C'est que ces jumelles ne peuvent pas résister au virus du sida ou
Qu'est-ce
qui vous contrarie dans cette découverte ?
Il y a beaucoup de choses. D'abord, cette manipulation génétique ne s'imposait pas du tout parce qu'il n'y avait aucun risque qu'elles attrapent le sida. Le père avait le sida, la mère ne l'avait pas. Et quand on fait une fécondation in vitro, on peut très bien donc faire en sorte qu'il n'y ait pas de contamination. Ce n'est pas du tout un problème. Le deuxième problème que ça pose, c'est un problème vraiment majeur parce que on ne sait pas du tout s'il n'y a pas eu d'autres modifications. Et en fait, quand on regarde de près les résultats,
Oui, tout à fait.
L'outil qui a été utilisé, on en parlera peut-être par la suite, c'est quelque chose qui est extrêmement précis, mais qui n'est pas précis. On ne peut pas être sûr qu'il soit précis à 100%. Donc il y a eu sans doute, peut-être, d'autres modifications génétiques. En plus de ça, il y a un côté utilisation de l'humain comme souris de laboratoire, parce qu'il n'a pas fait la même manipulation sur les deux jumelles. Donc il a testé deux possibilités. Je ne suis même pas sûr qu'il ait fait exprès. Donc ça donne une impression d'improvisation totale. Et puis dernier point, cette modification génétique qu'il a programmée peut avoir d'autres effets, parce que ça sert en fait, le gène qu'il a modifié sert code pour une protéine qui permet au virus du sida de rentrer dans les cellules. Oui. Mais on n'est pas du tout sûr que cette protéine, ce récepteur ne sert pas à autre chose. On est même à peu près sûr du contraire. Donc on imagine mal, si vous voulez, que l'évolution ait pu sélectionner un récepteur qui ne serve qu'à faire pénétrer le virus du sida.
Jean-François Bouvet, quel risque, si on essaye de se projeter dans l'avenir, il y a quel risque pour ces petites filles ?
Alors le problème, c'est que les risques sont complètement inconnus et impossibles à connaître. Il faudra les suivre de très très près. Si ça se trouve, il ne se passera rien. On ne se rendra même pas compte de ce qui leur a été infligé, en quelque sorte. Mais on n'en sait rien du tout. Et en plus, on va avoir, si ces petites filles ont des enfants, il y aura une transmission à la descendance. Et il est possible qu'il y ait aussi, par la suite, d'autres modifications dans la descendance. Si vous voulez, à partir du moment où vous commencez à toucher à l'ADN, vous ne savez pas trop ce que vous faites.
Mais ça veut dire qu'elles sont jumelles, mais il les a transformées, donc elles ne le sont plus tout à fait, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus exactement le même ADN, si je comprends bien, et donc leur descendance subira ça.
Oui, absolument, la descendance de chaque jumelle va continuer à manifester cette modification génétique.
Donc l'humain a en quelque sorte changé avec cette découverte quelque part dans le monde de ce Chinois. Est-ce que les Chinois sont au top de ces manipulations génétiques ? Parce qu'on entend beaucoup parler de Chinois quand on parle de manipulation génétique. Est-ce que c'est un pays qui travaille beaucoup là-dessus ?
Oui, alors ils sont quantitativement au top parce qu'ils en font énormément. Il y a des véritables usines génétiques maintenant en Chine, à Shenzhen en particulier. Il y a des laboratoires avec des moyens absolument colossaux, des chercheurs du monde entier et les meilleurs en plus. Donc oui, ils sont au top. Mais ils ne le sont pas plus que n'importe quel laboratoire de génétique européen.
Mais est-ce qu'eux se mettent des limites? Ils ont une réglementation ou alors ils ont tous les pouvoirs, ils font ce qu'ils veulent dans leur pays, ils manipulent ce qu'ils veulent.
Il y a une réglementation, mais il y a une différence de taille aussi, c'est qu'en Europe, par la convention d'Oviedo, qui remonte déjà à une vingtaine d'années, il est interdit de manipuler un humain avec des modifications transmissibles à la descendance. Bon, pour les
Donc
Chinois,
ce qui a été fait en Chine, c'est interdit en Europe.
Voilà.
Voilà ce qui vient d'être fait par ces chercheurs.
Mais ça ne l'est pas en Chine. Oui. En revanche, il est interdit par la bioéthique chinoise de faire naître des enfants OGM. Donc là, le chercheur a bien transgressé une loi chinoise.
Bébé à la carte aux éditions Équateur, c'est le titre du livre que vous publiez, Jean-François Bouvet. Autre manipulation génétique incroyable, des macaques OGM et clonés qui ne dorment plus jamais. On vous raconte comment et pourquoi. Tout de suite, les curieux sur RTL.
Les ovules qu'on vous a prélevés, Marie, ont été fécondés avec le sperme d'Antonio, votre mari.
RTL.
Après une présélection, nous nous retrouvons, comme vous le voyez, avec deux garçons sains et deux filles très saines.
La curiosité est un vilain défaut.
Bien, vous avez spécifié des yeux noisettes, des cheveux châtains et la peau claire.
Sidonie Bonnec.
J'ai pris la liberté d'éradiquer tout risque de préjudice potentiel tel que calvitie prématurée, myopie. Faites-moi confiance, il reste déjà suffisamment d'imperfections.
Thomas Hugues.
Non, votre enfant n'a pas besoin de fardeau supplémentaire.
Extrait du film Bienvenue à Gattaca, où des parents choisissent leur bébé sur catalogue grâce à des modifications génétiques.
C'était de la science-fiction à l'époque,
voilà,
mais c'était en 98, ouais, c'est
possible.
Sens, hein.
On est avec
bon
le docteur en biologie Jean-François Bouvet. Avant de revenir sur les manipulations d'aujourd'hui, le thème de ce film, c'était de la science-fiction, ça ne l'est plus. On peut choisir des caractéristiques de nos enfants ?
De plus en plus. Ouais. Déjà, il y a beaucoup de pays qui autorisent le choix du sexe par sélection de l'embryon. Quand on fait une fécondation in vitro, on peut faire une espèce de screening génétique des embryons.
En Europe, on peut le faire, ça, Jean-François Bouvet ?
En Europe, dans certains pays, oui. Par exemple, vous pouvez le faire à Chypre, dans la partie turque de Chypre, c'est possible. Il y a des endroits maintenant où c'est possible.
D'accord, je veux un garçon, je
Ukraine,
vais là-bas.
En Ukraine, c'est possible, voilà.
Okay.
Ça, c'est depuis longtemps. Bon, la nouveauté, c'est qu'aux États-Unis, on peut faire ça, mais on peut aussi, depuis très peu de temps, quelques mois seulement, choisir la couleur des yeux. Ça, c'est nouveau. C'est pas toujours possible parce qu'il faut avoir les packs de gènes qui sont propices. Hein, mais on peut, si c'est le cas, choisir la couleur des yeux de l'enfant.
C'est dangereux de faire ça, Jean-François Bouvet, de décider de choisir la couleur des yeux de son enfant. On va contre la nature. Qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce qu'on sait maintenant, aujourd'hui, de ces pratiques?
Disons que le danger que j'y vois, c'est qu'on va à chaque fois rajouter quelque chose. Bon, il y a des gens qui sont en train de travailler sur la taille maintenant. Donc on va bientôt pouvoir, ça devrait pas être très éloigné, choisir la taille de l'individu. Bon. Et puis après, il y a des gens qui travaillent en Chine, là encore, à Shenzhen, là encore, sur les gènes de l'intelligence. Bon. Ils ont commencé à passer au crible l'ADN de gens qui ont un QI très élevé pour voir s'il y a quelque chose de particulier dans leur ADN.
Pour pouvoir le reproduire.
Voilà. Pour pouvoir sélectionner les embryons qui présentent les bonnes séquences d'ADN. Alors, on n'en est pas là, mais il y a des gens qui y travaillent. Ouais. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Qu'il faut que le bébé soit une espèce de produit parfait, le fruit du désir de ses parents? Ou est-ce que l'amour pour un bébé, c'est justement aimer le hasard et cet enfant parce qu'il est le vôtre? Donc, c'est la question qu'on peut se poser.
Oui,
donc,
c'est presque plus une question morale ou philosophique que médicale. C'est-à-dire que la question, c'est pas forcément est-ce que ces enfants dont on aura choisi les yeux ou la taille tomberont malades. C'est la société qu'on est en train de préparer. Ça rappelle évidemment l'eugénisme, le nazisme. On choisi des grands blonds aux yeux bleus. Quoi.
En fait, on change le visage de l'humanité, c'est ça? Il y aura comme un monde encore... Il y aura plus de vitesse, c'est ça? Il y aura les riches qui pourront être très beaux, très grands, très intelligents, et les autres?
Voilà, il y a ceux qui pourront payer le choix et ceux qui ne pourront pas.
Ouais. Alors, dans les histoires à la fois fascinantes et effrayantes, il y a vraiment les deux adjectifs qui sortent là en ce moment. Il y a l'histoire de ces macaques chinois OGM est cloné. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
D'accord. Alors là, ça mérite une explication un petit peu plus longue, parce que c'est un peu compliqué. On va essayer de voir les choses dans l'ordre. Bon, première étape, c'est toujours en Chine. Hein. Ça se passe à Shanghai. Donc, il y a des chercheurs qui ont manipulé des embryons de macaques pour faire en sorte qu'ils aient des troubles mentaux et des troubles de l'horloge biologique. Bon, de manière à ce qu'ils puissent plus dormir. Hein. En plus, on va les maintenir éclairés en permanence dans leur cage. Et de manière à ce qu'ils soient déprimés, qu'ils soient anxieux, etc. Bon, ça, c'est la première étape. Par manipulation génétique de l'embryon, on est arrivé à ça. Et en plus, ces chercheurs ont cloné le macaque en question, malade, 5 fois, pour obtenir 5 singes identiques.
Pour en faire du matériel, c'est ça ?
Pour en faire du matériel, c'est un animal-machine pour tester des médicaments.
Attendez, donc, ils veulent quoi ? Des macaques déprimés pour pouvoir inventer un médicament contre la dépression ? C'est quoi l'objectif ?
Exactement, exactement. Donc ils ont créé l'animal souffrant pour pouvoir travailler dessus comme si c'était une machine.
Donc là encore, on change la nature. Si ce macaque, fait une fugue parce qu'il est trop malheureux et qu'il se reproduit avec d'autres macaques, là on a carrément changé une branche de...
Ah bah tout à fait, oui, il y a peu de chances que ça se produise, mais oui, c'est vrai qu'on a, on a changé, on change aussi sa descendance si tant est qu'il en ait une injure, parce que c'est des animaux qui sont complètement déprimés, malades, etc. Enfin, ils sont, on a créé de la souffrance, quoi. C'est de la création d'animal souffrant, la création d'un être souffrant par la génétique. Je trouve que c'est quand même, à mon avis, sans précédent, et sur le plan éthique, absolument incroyable.
Et en plus, on se rapproche de l'homme. On parle de macaques, évidemment. On est très proche des humains.
Oui, et qui dit cloner des macaques dit bientôt cloner des humains. Ça, c'est clair. Hein, ça nous pend.
Parce que techniquement, c'est pas si compliqué.
Non, c'est pas. Maintenant qu'on sait le faire sur le macaque, il y a pas de raison qu'on n'y arrive pas sur l'homme. Mmh. On l'a déjà fait jusqu'au stade embryonnaire. Je pense que c'est pour. Moi, je croyais pas personnellement, je dois vous le dire, au bébé OGM avant plusieurs années. Bon, ça y est, c'est fait. Alors, le clone humain, je ne peux pas présumer de quoi que ce soit, à mon avis.
Peut-être que vous revenez l'année prochaine parler dans notre émission.
Oui. Peut-être qu'il y a ce qu'on sait aujourd'hui et ce qui se passe en Chine, et puis il y a ce qu'on ne dit pas aussi.
Ah bah tout à fait, voilà, oui,
donc,
bien sûr.
À découvrir dans les prochains mois. Bébé à la carte, c'est le titre de votre livre publié aux éditions Équateur Science. Alors, vous l'avez à peine évoqué, mais il y a un outil qui est une drôle de paire de ciseaux qui est à l'origine de tout ça. Au départ, c'est une invention, une découverte intéressante, évidemment, elle est dévoyée en ce moment. C'est ce qu'on va vous décrire dans un court instant sur RTL.
14h, 15h.
Ces derniers temps, on entend assez régulièrement parler de l'idée de faire des manipulations génétiques, que ça soit pour faire des OGM ou bien faire de la thérapie génique. Et pourtant, aller modifier le génome d'une plante, d'un animal ou, à plus forte raison, d'un être humain, c'est quand même pas si simple que ça.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Enfin ça, c'était avant, puisque avec CRISPR, aller modifier un gène directement dans l'ADN, c'est devenu presque aussi facile que d'utiliser un traitement de texte.
Sur RTL.
Des animaux, des bébés OGM génétiquement modifiés, ce n'est pas de la science-fiction, c'est aujourd'hui et c'est le docteur en biologie Jean-François Bouvet qui nous en parle. On va évidemment vous dévoiler cette paire de ciseaux génétiques capables de couper des séquences d'ADN, c'est absolument extraordinaire. Mais avant, vous nous avez parlé plusieurs fois de cette ville en Chine, Shenzhen, c'est ça, au sud de la Chine. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? C'est la ville des manipulations génétiques, c'est un business là-bas ?
Absolument, oui. Alors, c'est une ville qui a eu une expansion absolument vertigineuse. Bon, il y a une trentaine d'années, c'était rien du tout. C'était une toute petite ville, un petit bourg chinois. Mmh. Et c'est ça l'avantage pour les Chinois de se trouver à côté de Hong Kong et dans une zone qu'ils ont créée, une zone économique spéciale où ils ont implanté un certain nombre d'usines avec des règles un peu différentes, hein, sortant du système chinois habituel. Et en particulier, ils se sont lancés dans la génétique à fond.
Sans limite.
C'est implanté à Shenzhen. Cette ville, maintenant, il faut bien comprendre qu'elle fait plusieurs millions d'habitants. Hein. C'est implanté ce qu'on appelle le BGI, le Beijing Genomics Institute, qui est une énorme industrie génétique, en quelque sorte, de recherche, hein, avec des machines pour cloner l'ADN à toute vitesse, enfin pour séquencer l'ADN et le cloner, etc. Donc c'est devenu une zone tout à fait étonnante où on a consacré un argent fou à la génétique pour essayer d'aller le plus vite possible. Donc et tout, ça va très vite. Oui,
et tout est plus grand, en fait. C'est ce qu'il faut imaginer, quoi, à la dimension de ce pays. Donc, il y a un business. Ça veut dire qu'il y a des gens qui rêvent de pouvoir avoir l'enfant parfait, qui rêvent de pouvoir atteindre l'immortalité. Et qui est derrière ce business? C'est ça aussi la question.
Alors, je crois qu'il y a surtout une recherche de pouvoir scientifique, c'est-à-dire d'être à la pointe. Dans l'immédiat, dans un deuxième temps, oui, bien sûr, il y aura du business. Mais dans un premier temps, je crois que la Chine veut montrer qu'elle est à la pointe. Et pour ce qui est de la recherche sur les gènes de l'intelligence, qui est très développée à Shenzhen, on peut craindre qu'on aille vers une sélection des embryons en choisissant les mieux dotés sur le plan des gènes qui gouvernent l'intelligence. Pour le moment, on ne les connaît pas suffisamment, mais il peut y avoir un projet chinois. Alors, ils s'en défendent, mais ils disent parfois des choses qui laissent penser que c'est bien ce à quoi ils visent.
Alors, pour qu'il y ait toutes ces manipulations génétiques, pour que cette ville Shenzhen ait pu exister, pour qu'on retrouve des macaques qui ne dorment plus, des enfants dont on choisit la taille et les yeux, il a fallu une invention, une paire de ciseaux. Quand est-ce qu'ils ont été inventés? Comment ils fonctionnent?
Alors, c'est une invention qui est très récente. Ça remonte à 2012. Et on doit cette invention à une Française, Emmanuelle Charpentier, et une Américaine qui s'appelle Jennifer Doudna, qui sont des généticiennes absolument remarquables.
Ce n'est pas des savants fous?
Non, à la base, ce n'est pas des savants fous. C'est les applications qui peuvent devenir folles. Mmh. Et elles sont en train de le devenir. D'ailleurs, elles le déplorent elles-mêmes. En fait, de quoi s'agit-il exactement? Cet outil, ça s'appelle CRISPR-Cas9. C'est une espèce de petit ciseau moléculaire qui permet de faire ce qu'on appelle de l'édition génétique, comme on parle d'édition en traitement de texte. Vous savez que dans l'ADN, il y a une série de bases qu'on appelle ATCG, les fameuses lettres ATCG. Eh bien, avec cet outil, vous pouvez très précisément en enlever, en ajouter ou modifier la séquence. Vous pouvez réécrire l'ADN d'un sujet, en quelque sorte. Et ça, c'est un outil qui était à la fois bon marché, très simple d'utilisation.
Même un étudiant peut l'utiliser ?
Un étudiant peut l'utiliser, un étudiant en master, disons à peu près de ce niveau-là. Bon, c'est vraiment la porte ouverte aux manipulations tous azimuts.
Quand on dit ciseaux, j'ai une paire de ciseaux devant les yeux, c'est pas ça, c'est quoi exactement ?
Il y a de ça quand même, puisque vous avez une partie qui reconnaît le petit morceau d'ADN qu'il faut transformer, qui vient se coller dessus, et vous avez une partie qui coupe. La partie qui coupe, c'est le fameux Cas9 de CRISPR-Cas9, en fait. Bon, c'est ce qu'on appelle une nucléase, pour employer un terme savant. Donc ça permet de couper dans l'ADN, d'enlever un morceau et de le remplacer par un autre.
Bébé à la carte, Jean-François Bouvet, c'est le titre du livre passionnant que vous publiez aux éditions Équateur. Et ces ciseaux permettent d'inventer, de créer des animaux extraordinaires, enfin tristement extraordinaires, des mini-cochons, des beagles, des chiens extrêmement musclés pour la police. On découvre tout ça dans un instant et dans la seconde partie de l'émission.
Un petit café ?
Un petit café, j'espère qu'il ne sera pas génétiquement modifié.
Non.
Allez, on devient parano.
Bon conseil pour choisir le café.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Les secrets de la manipulation génétique, des manipulations même génétiques dans la curiosité avec Jean-François Bouvet, docteur en biologie. Et parmi ce bestiaire incroyable qu'on a commencé à dévoiler, il y a par exemple ces macaques qui ne dormiront plus jamais parce qu'ils permettent, ils deviennent dépressifs et ils permettent de tester des médicaments contre la dépression. Il y a aussi des mini-cochons, des beagles ultra musclés et des vaches sans cornes. À quoi ça sert tout ça ?
Alors, les beagles super musclés, c'est encore les Chinois, décidément, on va croire que j'en veux aux Chinois. Mais donc, ils ont réussi à... En fait, il faut savoir que ce qui nous empêche d'être très musclés, c'est qu'on a un facteur dans notre organisme qui empêche la croissance musculaire. Pour pas que ça prenne le pas sur tout le reste, quoi. Bon. Donc, ils ont réussi à modifier le gène qui fabrique la substance qui contrôle le muscle, en fait. Et ils ont obtenu des chiens super musclés. Vous pouvez en voir sur Internet, c'est horrible. Pour rien tout de suite, avec des pattes, avec des muscles proéminents, etc.
Ils font des concours d'haltérophilie ou ils servent à quoi ces chiens?
Non, mais non, à la police, je sais pas.
Quand on interroge les chercheurs, ils disent ça peut servir pour la police. Donc c'est quand même assez étonnant. En plus de ça, on voit mal comment ces chiens pourraient être viables à long terme. Enfin, je vois pas comment ils pourraient survivre à ça.
Les mini cochons, c'est l'année du cochon en plus pour les Chinois. On va parler du cochon.
Les secrets du cochon.
La semaine prochaine, les mini cochons, ils servent à quoi?
Alors les mini cochons, c'est Shenzhen une fois encore. Ça se passe là-bas. Ouais. Donc ils ont été modifiés. Ils n'ont pas utilisé CRISPR, mais bon, peu importe. C'est aussi aussi de l'édition génétique. Et ils ont fait en sorte que les cochons restent nains. Ça a deux avantages. D'abord, ils en vendent comme animaux de compagnie. Hein. Il paraît qu'on peut choisir la couleur. Donc, vous pouvez avoir un petit cochon chez vous. On peut imaginer les dégâts que ça fait d'ailleurs dans un appartement, parce que les cochons, ça n'arrête pas de forer le substrat.
De gratter.
Et l'autre utilisation...
Il faut avoir une moquette bien épaisse.
Voilà.
Est-ce que je peux faire un mini Thomas, moi?
Oui, c'est ça.
Pour le week-end, pour poser sur mon bureau. Dans un instant, on va parler du café, des bons conseils. Oui, pardon.
En fait, le principal intérêt de tout ça, excusez-moi, c'est d'en faire des animaux de laboratoire, parce qu'un mini cochon, c'est beaucoup plus pratique dans un laboratoire à stocker qu'un gros cochon. Et ça, on peut tester des tas de choses dessus.
Donc,
c'est l'animal machine, quoi. Mmh. Ça tient moins de place, il faut moins d'antibiotiques, ça mange moins. Donc, on fait un mini cochon. Voilà. C'est à peu près la philosophie de la chose.
On devient un peu parano, forcément, Jean-François Bouvet. Est-ce qu'il y a du café génétiquement modifié, puisqu'on va raconter ses secrets, comment bien le choisir, ce café?
Alors non, d'après ce que j'ai pu voir, non. Heureusement, non.
Pourquoi ?
Apparemment, le café a un côté, on a un rapport affectif au café qui va pas du tout avec l'idée qu'on ait pu le tripatouiller génétiquement.
Alors que les bébés, oui,
alors
par
que
exemple.
Que les jumelles, on n'a pas de rapport affectif avec les petits.
Il y en a
à
qui ça pose pas de problème.
Oui, mais voilà.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.